Laurence Garcia, on parle aujourd'hui de commérage dans l'espace de travail. Il est bientôt 12h10 à Paris, 10h10 en temps universel.
12h10 sur la clé des ondes. Merci beaucoup à RFI pour ce journal. Vous écoutez le plat de résistance. Aujourd'hui, une émission enregistrée, une émission consacrée à l'actualité politique et à la mobilisation des travailleurs et des travailleuses. On entendra dans quelques minutes un enregistrement réalisé le 13 juin dernier avec des jeunes métallotes et métallos, membres de la CGT des métallos, qui étaient en formation et qui sont passés dans notre studio. On en a profité pour parler avec eux de la situation actuelle et de la mobilisation des travailleurs, des travailleuses contre l'extrême droite, contre le fascisme. Mais avant tout ça, on va commencer par entendre Camille Bedoc, qui est chargée de recherche CNRS en sciences politiques au centre Émile Durkheim. On l'a appelée pour lui demander de nous dire un peu les leçons qu'elle retenait, les analyses qu'elle pouvait faire du scrutin des élections européennes du 9 juin dernier. On a commencé par l'interroger sur les cartes qui circulent depuis le 9 juin, cartes des votes et cartes des partis arrivés en tête de ces élections dans les différentes communes de France. On écoute tout de suite sa réponse et cet entretien avec Camille Bedoc.
Il y a eu plusieurs cartes qui ont circulé. La première, celle qui a été très commentée, qui montrait que le RN était arrivé en tête, je crois, dans 94% des communes, il me semble, évidemment en gardant en tête le fait que les communes françaises sont typiquement très petites, mais ce qui change quand même pas l'interprétation générale, qui est celle que maintenant le RN a une implantation territoriale généralisée en fait en France, qui n'était pas le cas auparavant. Donc ce que ça veut dire, c'est que évidemment il a toujours fait très bien dans ces zones. Dans les zones dans lesquelles on avait l'habitude de le voir très fort, donc le sud-est, le nord, le nord-est, etc. Mais on a vu aussi que maintenant, c'était un parti qui était capable d'arriver en tête dans des territoires dans lesquels il était beaucoup moins bien implanté auparavant. Il y a aussi une carte qui a un peu circulé qui montrait les zones dans lesquelles il avait le plus progressé dans la dernière dizaine d'années, disons. Et qui montrait notamment que c'était par rapport à la gauche, et qui montrait que, par exemple, peut-être de manière moins intuitive, il avait énormément progressé justement dans le sud-ouest ou dans des zones où traditionnellement la gauche était plus forte. Donc en proportion, la gauche a sans doute beaucoup plus perdu de terrain dans des endroits où elle était forte au profit du RN, et ça, on le voit très nettement dans des zones proches de Bordeaux, enfin que ce soit dans le sud Gironde, le nord Gironde c'est déjà un peu plus ancien, dans le Blayais, mais aussi dans les Landes par exemple, ou dans d'autres endroits où traditionnellement il y avait d'autres forces politiques qui dominaient. Donc voilà, le mais ça qu'on peut faire, c'est que même si voilà, on peut discuter de la pertinence de ces cartes, du poids démographique respectif, c'est qu'il y a quand même une implantation territoriale sur l'ensemble du territoire maintenant. Et aussi un clivage quand même entre les grandes villes, les villes plus peuplées et les campagnes avec des gros guillemets qui reste assez prégnant et qui est d'ailleurs un peu une spécificité française dans le sens où le clivage entre le centre et entre urbain et rural est quand même particulièrement marqué en France par rapport à d'autres pays sur le plan électoral.
Et cette question-là, justement, de ces nouveaux, ces scores assez importants dans des coins où le RN n'était pas encore assez fort, comment est-ce qu'on l'explique ? Est-ce que c'est juste une question de diffusion progressive et d'implantation à mesure que le parti se structure, etc. ? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être à mettre ici ?
Je pense qu'en fait, il faut vraiment voir là aussi la sociologie du RN, qui est de plus en plus une sociologie très très large. En fait, là encore une fois, il y a des catégories sociales où il a été très très fort aux européennes, dans lesquelles on sait qu'il fait traditionnellement maintenant des bons résultats chez les ouvriers qui votent. Donc où il a fait 53% chez les ouvriers qui se sont déplacés, chez les employés qui sont souvent des femmes, chez les personnes qui ont un faible niveau de diplôme, etc. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que maintenant, et ça explique cette diffusion territoriale, Le RN fait des scores très élevés, y compris dans des couches de la société dans lesquelles il n'était pas traditionnellement extrêmement implanté, même si ce n'est pas forcément lui le parti en tête. Mais il fait des scores importants chez les cadres, il fait des scores importants chez les retraités. Il a fait, je crois, 29%, alors que traditionnellement, c'était un électorat qui votait moins RN et davantage pour la droite, entre guillemets, traditionnelle. Il fait des scores élevés chez les jeunes, ça a été pas mal discuté, dans les catégories, enfin, chez les salariés, y compris dans des catégories, voilà, chez les profs. Évidemment, c'est pas forcément le parti en tête, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est beaucoup, beaucoup diversifié sociologiquement, son socle électoral. Il reste marqué par un certain nombre de caractéristiques qui font que c'est un électorat qui est quand même plus populaire, moins diplômé, et plutôt relativement moins âgé que le reste de la population. Enfin, plutôt un électorat, disons, d'actif dans la force de l'âge, etc. Mais ça s'est quand même énormément diversifié. Donc voilà, ça, c'est aussi ça que disent ces cartes, c'est que petit à petit, il y a quand même une implantation géographique sociologique du RN qui est devenue extrêmement importante et qui font que c'est un parti qui est implanté dans l'ensemble de la société, même si évidemment il a des catégories dans lesquelles il réussit particulièrement.
Ouais. À l'opposé du spectre, pour la gauche plus modérée, on va dire, on a pu entendre dire que le bloc, en gros, PS, Place Publique, Écolo, était relativement stable. Il y avait un peu des vases communicants entre eux par rapport aux dernières élections, mais ça restait stable. Et que là où la gauche progressait, c'était la France Insoumise, notamment, qui progressait dans les élections. Alors, c'est surtout des militants FI qui nous ont dit ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez?
Bah, en fait, ce qu'on constate surtout, c'est que il y a une différence. Enfin, là où on peut, pour nourrir le débat, je sais pas comment dire, sur les gauches irréconciliables ou pas. En fait, ce qu'on constate dans les élections européennes, comme à peu près à toutes les élections, c'est que les électorats de gauche sont quand même extrêmement mouvant et volatile, entre aussi bien entre la France insoumise que PS, que les Verts, etc. Et il y a beaucoup de vases communicants à cette élection comme à d'autres. J'ai plus exactement en tête les chiffres, mais il y a un nombre tout à fait non négligeable des électeurs de Glucksmann qui viennent en fait du bloc insoumis, qui avait voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Je crois que c'est je veux pas dire de bêtises et ce serait à revérifier, mais je sais plus, c'est pas dans l'ordre d'un tiers des électeurs, donc c'est tout à fait important. La France insoumise, alors elle a progressé par rapport aux européennes de la dernière fois, mais elle a évidemment beaucoup régressé par rapport aux dernières élections nationales. Mais en fait, l'électorat de gauche est quand même relativement poreux. Évidemment, il y a des gens qui iraient jamais de LFI à OPS ou à l'inverse. Mais en fait, il y a quand même une grande partie de l'électorat qui se déplace entre ces différentes forces politiques. Et donc, parler de... En fait, c'est un peu compliqué de parler de progression, régression. Enfin oui, on peut voir des choses sur cette élection, mais en fait, ça confirme une tendance plus large qui est le fait qu'il y a une certaine logique en fait dans le fait de faire un Front populaire, dans le sens où ces électorats-là sont dans l'ensemble quand même très liés entre eux et ils se déplacent les uns les autres selon les échéances électorales et les moments.
Là, on voit des projections à partir des européennes de possibles résultats des législatives par circonscription. Est-ce que ça a un sens, là, de faire ça aujourd'hui ?
Ça a un sens dans le sens où c'est très difficile à faire, en fait. Voilà, c'est très difficile à faire parce qu'il y a énormément de choses qui sont difficiles à évaluer. La première, c'est la participation électorale qui, pour l'instant, semble s'orienter vers le fait que ce serait quand même une forte abstention. On parle pour l'instant de, je sais pas, 62% de participation. Alors ça peut encore bouger, mais ça veut dire qu'on est quand même très loin des scores que de participation de la présidentielle. Et ça a une très forte incidence parce que selon s'il y a une participation de 62, 65, 70, 75, ça change très fortement le seuil nécessaire pour accéder au second tour, puisqu'il faut 12,5% des inscrits. Et donc, mathématiquement, plus les gens participent, plus ce seuil devient faible en nombre de voix. Mais ça, c'est difficile à modéliser. Et ça change énormément de choses. Parce que, évidemment, les choses se passeront différemment dans une configuration de triangulaire ou dans une configuration, enfin, avec deux forces au second tour. Ce qui est difficile à lire aussi, c'est les reports, parce que en fait, on a quelques éléments basés sur les législatives de 2022, mais la question qui va se poser, c'est que, comment dire, dans les législatives de 2022, Renaissance avait réussi à accéder au second tour dans, je crois, 410 circonscriptions. Et là, on peut supposer qu'ils vont être absents du second tour dans un nombre beaucoup plus important de circonscriptions. Et donc, se pose la question de savoir, après toute cette campagne qui met un peu en un signe équivalent entre l'extrême gauche et l'extrême droite, avec des guillemets, qu'est-ce qui va se passer en termes de report de voix? Est-ce que les électeurs Renaissance vont s'abstenir? Est-ce qu'ils vont voter pour le Front populaire? Est-ce qu'ils vont voter pour le Rassemblement national? Évidemment, ça va se répartir entre ces différentes forces, mais en fait, c'est vraiment les reports qui vont aussi expliquer les résultats. Donc, ça explique le fait que ça soit aussi difficile de faire des projections. On peut faire, disons, des projets. On peut dire, on peut donner une estimation nationale de qui va voter pourquoi, et on peut supposer que les scores vont pas être fondamentalement différents de ce qu'on a vu aux européennes. Mais il y aura aussi forcément, une prime locale. C'est une élection qui est très courte. Il y a une campagne très très courte, ce qui veut dire que les sortants vont sans doute bénéficier d'une prime aux sortants plus importante qu'à d'autres élections, dans le sens où ça va être les seuls qui vont être identifiables par rapport à leurs adversaires, qui est sans doute du coup quelque chose qui va leur bénéficier aussi électoralement. Donc en fait, toutes ces choses-là, elles sont quand même très difficiles à modéliser, et ça explique pourquoi là, le travail des sondeurs sur une élection législatif comme ça est particulièrement difficile, et pourquoi on peut avoir des projections qui sont aussi différentes. Ce qu'on peut juste dire, c'est que voilà, pour l'instant, dans la dynamique de campagne, le RN semble être stable à peu près à son score des européennes. La gauche est plutôt pour l'instant sur une dynamique, mais il semble quand même très 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 difficile d'imaginer pour le moment qu'elle puisse être majoritaire en siège. Alors après, la question, c'est à quel point sera-t-elle minoritaire en siège, et à quel point le RN et son bloc réussiront à avoir être proche, disons, du seuil des 289. Pour l'instant, c'est un peu ça l'inconnu. En revanche, ça peut changer, mais pour l'instant, on semble quand même se diriger vers le fait que Renaissance et ses alliés vont perdre une part très très significative de leurs élus, et donc c'est beaucoup entre leurs mains les mains de leurs électeurs que va résider le résultat final.
Et alors justement, un scénario possible, ce serait de se retrouver le 7 juillet avec trois blocs de députés et donc aucune majorité absolue pour gouverner, trois blocs un peu forts, donc la extrême droite, les macronistes et puis la gauche. À la fois, ça peut être un risque de paralysie, mais peut-être aussi une sorte de retour en force du rôle du Parlement. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation-là?
Alors là, encore une fois, je sais pas du tout. Enfin, là, on est dans vraiment de la politique fiction. C'est difficile à lire parce que, oui, bien sûr, ça pourrait vouloir dire un retour du Parlement. Mais le problème, c'est que c'est vraiment trois blocs qui clairement vont. Enfin, on peut vraiment pas prédire ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce que le bloc centriste s'élargirait fortement parce que finalement, je sais pas, moi, le PS irait avec eux et LR reviendrait avec eux et ça formerait une sorte de gouvernement minoritaire national. Il faut pour plus Renaissance est bas et moins c'est probable. Est-ce que le RN refuserait, comme ils le sous-entendent maintenant, de gouverner s'ils sont pas dans une configuration où ils ont la majorité absolue? C'est sûrement du bluff, mais voilà. Est-ce que il y aurait une tentative pour le RN de former un gouvernement, mais qui serait probablement tout de suite renversé, parce que pour le coup, Si le gouvernement En Marche a tenu, c'est parce que les oppositions s'étaient pas coalisées contre lui, mais on peut supposer que ça serait différent dans le cas du RN. Si le RN était amené à gouverner, on peut supposer qu'une motion de censure votée par la gauche et par Renaissance et tout ça serait quand même beaucoup plus probable. Pour la gauche, on imagine, encore une fois, pour les imaginer gouverner, il faudrait qu'ils soient qu'il soit le bloc majoritaire, bon, ben, la campagne peut changer, mais pour l'instant, je pense que c'est quand même pas le scénario le plus probable. Donc, c'est vraiment très, très difficile de dire ce qui va se passer. On risque de se retrouver effectivement dans une situation de blocage institutionnel. On ne peut pas savoir non plus ce que va faire Emmanuel Macron. Enfin, bon, il vient de faire quelque chose auquel personne ne s'attendait, du moins pas dans ce délai-là. Donc, qui peut totalement exclure le fait qu'il pourrait y avoir une démission à court, à moyen terme? Enfin, honnêtement, voilà, bien sûr que c'est pas probable, il a dit que non, mais en fait, bon, il y a beaucoup de choses qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. Donc, voilà, moi, je suis bien incapable pour l'instant de dire quel est le scénario le plus probable, à part que, oui, ben, un blocage, en tout cas à court terme, et une chambre ingouvernable qu'on ne pourra pas dissoudre pendant un an. Ça semble pour l'instant le scénario le plus probable, mais tout change tellement vite que voilà que c'est vraiment une hypothèse qui peut se révéler caduque très facilement, parce que beaucoup beaucoup de choses se sont passées déjà.
Juste un dernier mot, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait tendance dans pas mal d'endroits aujourd'hui à faire un signe d'équivalence entre le Rassemblement national et le Front populaire, ou en tout cas la France insoumise. C'est quoi le regard d'une politologue là-dessus?
Moi, je trouve que c'est un peu symptomatique quand même d'une évolution du débat politique, parce que voilà, enfin, en réalité, bon, bah, la France insoumise, c'est un parti qui est pas classé par l'extrême gauche, même par le Conseil d'État, enfin voilà, et qui ne sort pas de l'arc démocratique. Après, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait eu des problèmes récemment, qu'il y ait eu des positions qui ont été problématiques, mal vécues, etc. Ça, c'est un autre point. Mais en revanche, je pense que de considérer que c'est une force qui pose le même danger pour la continuité démocratique que le RN, c'est quand même historiquement, bon, voilà, contestable, mais bon. En tout cas, je pense que ça montre de quelle manière a évolué le système partisan français. Mais je vais me contenter de dire ça.
Merci beaucoup à Camille Bedoc, chargée de recherche CNRS en sciences politiques au Centre Émile Durkheim.
Marine, tu sais, ce soir, ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde qui? Moi j'emmerde. Géniteur, génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine. Tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Pensez que le blanc ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine, parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde.
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 J'emmerde. Qui? Moi j'emmerde.
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 J'emmerde. Qui? Moi j'emmerde.
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 su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen. N'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine. J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde,
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 j'emmerde.
Qui
moi j'emmerde,
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 j'emmerde.
Qui
moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde,
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 j'emmerde.
Vous écoutez toujours le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, une émission enregistrée. On va tout de suite enchaîner avec un entretien, une table ronde même enregistrée le 13 juin dernier avec des jeunes métallos-métallotes de la CGT des métallos. Alors, on a la chance d'accueillir dans le studio de la clé des ondes plein d'adhérents, adhérentes de la CGT des métallos, notamment des jeunes métallotes et métallos qui étaient en formation aujourd'hui. Avec leur syndicat et qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils se sont dit et de aussi comment ils se sentent, comment ils voient un peu la situation du moment, puisque c'était en lien avec leur sujet du jour. On a autour de la table Guillaume, alors qui est l'ancien de la bande.
Oui, c'est ça.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Mélissa, bonjour Mélissa.
Bonjour.
Justine, bonjour Justine.
Bonjour.
Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Nathan, bonjour.
Bonjour.
Et Jonathan, bonjour Jonathan.
Bonjour.
Je vous laisserai peut-être vous présenter en même temps que vous prendrez la parole. Qui est-ce qui a envie de commencer, de dire un peu ce, qui il ou elle est et puis de quoi vous avez causé ce matin ensemble ? Tanguy ?
Moi, je suis membre de l'Union départementale de la Gironde, CGT Gironde, et aujourd'hui, je suis venu soutenir et échanger avec le collectif jeune des métallos parce que j'anime le collectif jeune de l'Union départementale. J'ai 31 ans et je suis enseignant. Mais...
Nathan ?
Moi, je travaille à la SAFT depuis 12 ans, donc je suis dans le secteur chimie de la SAFT. On fabrique des électrodes positives et négatives pour les batteries, pour les avions et les trains. Mon engagement syndical, en fait, c'était surtout dans mon équipe où je suis, où j'avais un collègue qui était délégué syndical, qui était là vraiment pour nous aider, pour nous épauler, que ça soit un rapport avec la hiérarchie ou même un rapport avec d'autres collègues, n'importe quel rapport. Et cette aide, cette entraide qu'il y avait, qui m'a beaucoup plu. Donc ça m'a donné envie de commencer à sauter le pas, parce que ça fait à peu près un an, grosso merdo, que je suis syndiqué, c'est très frais. Et c'est le côté entraide que j'aime beaucoup, c'est le côté aussi donner des informations, qu'est-ce qui se passe en dehors de l'usine, qu'est-ce qui se passe aussi dans l'usine, et ça englobe tout, toutes ces choses.
Jonathan, pareil, petite présentation.
Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans, je travaille chez Jules, à Bordeaux-Sainte-Catherine, et je suis délégué syndical national de mon entreprise et également conseiller du salarié. C'est assez récent. Parce que je
Donc
me suis
pas métallo.
Non, moi je suis Fédération Commerce et Services. Je suis là pour accompagner les jeunes métallos et voir un peu ce qui se passe chez eux. Parce qu'on est là aussi pour pouvoir échanger sur différents syndicats et nos modes opératoires et tout ça. Et puis c'est important de faire l'union, entre guillemets, pour pouvoir faire barrage à tout ce qu'on est en train de vivre et à tout ce qu'on vivra prochainement.
Merci. Mélissa ?
Et ça fait 12 ans que je travaille à la SAFT, 8 ans au labo de contrôle des électrodes. Donc je faisais l'inspecteur des travaux finis de Nathan. Et ça fait 4 ans maintenant, 3-4 ans, que je suis au développement des batteries alcalines. Donc c'est les batteries pour les trains, pour les avions. Et donc essayer de développer les batteries de demain. Mais bon, c'est pas trop une technologie d'avenir. Donc on est plutôt sur de la réduction de coûts.
Pourquoi c'est pas une technologie d'avenir ?
Eh bien, l'avenir de la batterie, enfin, tel que le marché il est, on est plutôt sur du lithium-ion. Et nous, c'est une vieille technologie, le nickel de cadmium, c'est une technologie qui a 70 ans. Et du coup, le lithium-ion, comme la densité énergétique, elle est beaucoup plus forte, vous mettez beaucoup plus d'énergie dans un plus petit contenant, donc c'est plus sexy. Okay. Même si ça coûte beaucoup plus cher.
Et ton engagement syndical, comment ça s'est mis en place ?
C'est un ancien du syndicat qui était venu me chercher parce que, à force de boire le café ensemble et tout, il sentait bien qu'il y avait une fibre chez moi. Donc, et de toute façon, quand je suis arrivée dans la boîte, très rapidement, on a repéré que j'étais féministe, j'étais la fémène de service, donc ça s'est rapidement su. Et donc, il m'a proposé de prendre un mandat tout d'abord de suppléante. Et j'ai dit pourquoi pas, j'ai découvert le syndicalisme comme ça. Puis après, donc, j'ai apporté le côté justement féministe qui n'était pas trop présent à la SAFT, ou qui n'était pas aussi montré. Donc j'ai commencé avec des journées d'action pour le 8 mars, faire venir des assos pour le 25 novembre, enfin, toutes ces dates un peu charnières, et puis modifier un petit peu les tracts pour pouvoir visibiliser les travailleuses. Parce que je suis pour l'écriture inclusive, même si ça fait beaucoup, beaucoup débat. Et donc après la première mandature, j'ai pris un mandat de titulaire. Et après, on a eu notre congrès et mon syndicat m'a fait confiance en m'élisant secrétaire adjointe du syndicat. Et après, j'ai rencontré Guillaume par l'intermédiaire du collectif Jeunes, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qui aussi m'a fait confiance, m'a laissé ma place. Et m'a permis d'avoir un mandat à la CE.
Donc la CE, c'est la commission exécutive de l'Union départementale
De l'USTM, de l'Union des syndicats des travailleurs des métaux. 33 et 47.
Très bien. Justine
Alors, donc moi c'est Justine, j'ai 29 ans. Ça fait 6 ans que je travaille à Dassault Aviation à Mérignac, je suis. Je suis syndiquée, moi, depuis peut-être 4-5 ans. Je viens d'une famille cégétiste, donc j'avais quand même les bases, on va dire. Mais quand je suis arrivée dans le monde du travail, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis, je suis tombée sur des cas un peu particuliers qui m'ont un peu fait peur sur les syndicats. Donc du coup, ça m'a rebutée, j'ai attendu un peu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai passé le cap quand même. Je me suis syndiquée à la CGT. Donc moi, je suis cadre, je suis une femme, c'est pratique. Je
c'est
coche
pratique,
toutes les cases.
C'est-à-dire on se prend moins de bâtons dans les roues, c'est moins dur le travail, c'est quoi ?
C'est pas que c'est moins dur, c'est qu'au niveau du syndicalisme, il n'y a pas beaucoup de femmes et il n'y a pas beaucoup de cadres, en tout cas à la CGT. Donc du coup, je cochais un peu toutes les cases. Donc moi, j'ai un mandat de suppléante, parce que j'ai voulu m'impliquer, mais pas encore trop. Je ne sais pas où je mets les pieds pour l'instant. Donc comme ça, je suis un peu en vision, on va dire, je regarde un peu ce qui se passe. Et comme ça, je participe en même temps, mais sans trop mouiller pour l'instant. Je suis encore bébé dans les syndicats, on va dire. Donc j'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe et puis je m'impliquerai un peu plus dans la suite.
Mélissa.
Alors, le thème de la journée, c'était le syndicalisme face à la montée du RN. Et sujet qui tombait pile poil d'actualité avec les résultats des européennes.
ça a été la mauvaise surprise, entre guillemets, parce que personne ne voulait d'un résultat comme ça. Mais les urnes ont parlé d'elles-mêmes. Donc du coup, on a beaucoup, beaucoup débattu sur l'individualisme, toutes les causes, la montée de la colère, que c'est un vote de colère, de pourquoi la désunion de la gauche aussi, on a parlé, qui du coup ouvre la porte aussi à la montée du RN. Le fait que le RN n'est pas un parti pour les travailleurs et les travailleuses, que toutes leurs décisions à chaque fois viennent casser le monde du travail.
Et justement, pourquoi le RN n'est pas un parti pour les travailleurs et les travailleuses ? C'est quoi les arguments derrière ce truc-là ?
Eh bien, à chaque fois qu'il faut voter sur l'augmentation des salaires, ils s'abstiennent ou ils votent contre. À chaque fois, ils sont pour les exonérations de cotisations pour les entreprises. Et nous, ce qu'on aime, c'est les cotisations. Désolée, mais moi, j'aime payer des impôts.
Pourquoi ?
Parce que c'est hyper important. Quand je suis malade, je suis bien contente de pouvoir me soigner sans avoir un reste à charge qui est énorme. Quand je suis privée d'emploi, je ne suis pas en stress de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui parce que je peux aller chercher du travail sereinement. C'est tout ça. Les mesures contre mon sujet préféré. Les violences sexistes et sexuelles et tout ça, il faut de l'argent en fait pour pouvoir mener ces combats-là. Et donc ça passe par des cotisations, ça passe par des impôts. Et eux, ils viennent tout casser ça au prétexte de libéralisme. Et quand on lit leur programme, le numéro 3, c'était liberté pour les entreprises. À aucun moment, ils ne parlent des travailleurs et des travailleuses.
Quelqu'un a envie de poursuivre là-dessus, peut-être aussi sur comment ces discours-là, vous arrivez à les faire vivre dans vos entreprises, ces discours de lutte contre les idées d'extrême droite? Est-ce que c'est facile d'arriver à tenir ces discours-là dans vos boîtes, Nathan?
C'est compliqué. C'est assez compliqué d'en discuter avec les collègues parce que la politique est toujours un peu un sujet assez dur à emmener parce qu'il y a beaucoup d'avis différents. Donc ça mène souvent au conflit, les gens ne veulent pas aller au conflit, donc ils préfèrent se taire et rester derrière leurs idées.
Et du coup, en tant que syndicaliste, c'est quoi le... qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas trop parler, pas trop se mouiller, par peur du conflit? Est-ce que c'est aller le chercher? Est-ce que c'est dire, ok, je comprends, on y reviendra plus tard, et c'est du travail un peu de longue haleine sur le terrain au fil des mois, des années?
C'est un travail de longue haleine, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut travailler assez rapidement, parce que malheureusement, la montée du RN est de plus en plus rapide et monte en flèche. Donc c'est un sujet qu'il faut, même si c'est difficile d'en parler, il faut quand même en parler, se forcer, sans forcément aussi juger, être assez ouvert d'esprit pour pouvoir avoir une discussion calme, sans s'énerver. Après, pour juste donner un exemple, par rapport aux élections européennes qui ont eu lieu donc dimanche, dès le lundi, à la Poste Café avec les collègues, on va dire cash, moi j'en ai parlé avec des collègues, j'ai remarqué que la plupart ils s'étaient même pas déplacés pour aller voter, ce qui était vraiment dommage. Et donc ensuite j'ai essayé de parler un petit peu de la montée du RN et tout, qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce que l'avantage dans l'équipe, il y a une très grande mixité sociale, et donc même s'il y a des gens qui en ont peur, ils sont quand même pas déplacés, ils ont quand même pas malheureusement le déclic suffisant pour se dire que leur voix compte, et surtout pour contrecarrer la montée du RN.
T'arrives à comprendre pourquoi il n'y a pas ce déclic, comme tu dis?
Je sais pas, je pense, c'est un avis personnel. Peut-être que les gens se sentent plus citoyens français, pas citoyens européens. Souvent les européennes, c'est là où il y a le plus d'abstention. Elles sont un peu mises à la trappe, malheureusement. Et souvent, et puis donc sachant ça, en fait, le RN en profite pour monter en puissance, car ils se disent que les autres, les Européennes, on s'en fout, et puis basta quoi.
ça donne un peu d'espoir pour les prochaines élections qui ne seront pas des européennes et qui peut-être les gens se sentiront davantage concernés.
Jonathan,
sur toutes ces questions-là, comment toi tu vois les choses ?
Je pense que le RN a saisi les opportunités qui se présentaient à son parti et qui a profité, entre guillemets, peut-être du ras-le-bol général des Français en ce qui concerne certains sujets, et qu'à l'heure actuelle, c'est devenu assez radical. Les gens, au lieu de composer avec ce qu'ils ont, préfèrent trancher directement dans le vif, et effectivement, il y a beaucoup plus de personnes qui votent RN maintenant à cause d'une certaine lassitude. Après, c'est un ensemble de facteurs à prendre en compte. Il y a eu les médias qui ont joué aussi, la visibilité médiatique du RN qui est beaucoup plus importante ces dernières années, encore une fois parce que le RN a su, je pense, saisir ces opportunités-là. Ça reste compliqué, quoi. Après, j'espère vraiment que pour les présidentielles, la France va se réveiller, parce qu'on peut pas avoir un gouvernement de toute façon pendant 5 ans d'extrême droite, quoi. C'est juste pas possible. On reste quand même un pays de liberté, et ces libertés-là, il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié pas mal de choses dans leur vie personnelle pour qu'on puisse jouir de tous ces droits-là. Et ça serait bien qu'on laisse pas des gens venir déconstruire tout ça au pouvoir, quoi. Après, voilà.
Sur les moyens d'action en tant que syndicaliste, je pense que vous avez parlé de ça ce matin, il y avait la rédaction d'un tract, il y a ce truc-là de voilà, écrire des tracts, aller au contact des gens pour reparler, ça fonctionne, c'est quoi les outils que vous avez en tant que syndicaliste pour essayer de peser là-dessus ?
Alors effectivement, on a les tracts, on mène des actions et aussi également on va distribuer ces tracts, on peut organiser des soirées, on peut organiser des débats, on peut organiser des journées d'études comme ça a été le cas aujourd'hui, on va pouvoir échanger sur ce genre de sujet et mener des plans d'action par la suite. Après effectivement, je pense que on doit, à l'ère du temps où on est, utiliser les médias sociaux, parce que ça reste quand même une borne de diffusion qui est assez massive, surtout en ce qui concerne la jeunesse, et pour faire face aussi à toute la désinformation qu'on a dessus, quoi. Donc c'est bien que syndicalement, on puisse s'y mettre nous également pour toucher un large public. Et après, c'est le militantisme, c'est être présent, c'est savoir affirmer ses convictions, pouvoir participer à n'importe quel débat, essayer d'amener le dialogue dans son entreprise comme l'a fait Nathan. Et essayer, quoi. Si on n'essaye pas, au final, ça reste très compliqué, mais de prêcher la bonne parole, quoi. La lucidité, en tout cas, je pense, parce que quand on voit le programme du RN, la lucidité n'y est pas, en tout cas pas en ce qui concerne les travailleurs et les salariés, donc ça reste assez problématique, ouais.
Justine, sur ces deux questions, à la fois de en quoi les idées de l'extrême droite et l'extrême droite en général est l'ennemi des travailleurs, des travailleuses, et sur comment la combattre, comment toi tu vois un peu les choses ?
Ça va un peu résumer ce qui a été dit, je pense, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas en extrême droite, on est quand même en droite très prononcée, donc on voit déjà un petit peu ce que ça peut donner sur les travailleurs, on voit déjà que par exemple le syndicalisme commence un peu à souffrir de toutes les lois qui passent. Les travailleurs, les chômeurs, etc., souffrent déjà depuis un bon bout de temps sous tous les présidents. Mais plus ça va et moins ça va. Et là, si on commence à tendre encore plus à l'extrême droite, on sent que ça va être encore plus compliqué. Les droits de grève vont être quand même vachement diminués. Les radios libres diminuées aussi, je pense. Voilà, donc ça va nous toucher tous. Et je pense que la plupart des gens n'en ont pas forcément conscience pour l'instant. C'est qu'une fois qu'ils seront dedans, qu'ils se diront « mince, c'était trop tard ».
Tanguy, un mot en complément à ce qui a déjà été dit ?
On parlait des conséquences pour l'avenir. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est le premier tweet de Jordan Bardella suite à l'élection. Ça a été de dire qu'il allait privatiser l'audiovisuel public. Et je pense que ça résume bien leur mentalité et que... Enfin, clairement, la politique libérale, on voit déjà ce que ça fait sur le monde du travail, et que là, on va monter encore d'un cran. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise, c'est que nous, on croit à une société qui émancipe les travailleuses, les travailleurs, mais n'importe quel citoyen, n'importe quel jeune. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens pensent par eux-mêmes, que les gens s'emparent de leur lutte, que les gens militent, se connaissent, grandissent ensemble, et qu'on est clairement sur un projet qui va être à l'opposé de tout ça, si ça devait arriver. Parce qu'on est quand même optimiste, et ce matin, on se l'est dit, on va se donner les moyens d'y arriver pour que ça n'arrive pas. Mais là, on est à un tournant, on n'est pas sur les guéguerres politiques qui ont dégoûté tout le monde. Là, on est vraiment sur un moment où il faut, c'est ce qu'on s'est dit aussi ce matin, il faut se mobiliser, il faut peut-être oser y aller un peu plus que d'habitude. Tout à l'heure, Nathan parlait de la difficulté de militer sur des sujets aussi politiques, au sens de partis politiques aussi, parce que le Front Populaire a été repris par les partis politiques. Et c'est difficile, mais là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on mette l'ensemble de nos forces dans cette bataille, parce que le moment, on est vraiment à un virage. On parle de perdre un grand nombre de libertés.
Bah, peut-être un mot quand même sur ce collectif jeune départemental de la CGT. C'est quoi? Comment ça marche? C'est quoi là, son intérêt?
Alors, le collectif jeune de la CGT, de l'Union départementale 33, ça fait une petite année qu'il est remis en fonctionnement. Et son objectif, c'est de créer des rencontres, comme aujourd'hui, avec les collectifs jeunes des syndicats. Parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui se posent la question du syndicalisme jeune, notamment en Gironde, et qui organisent des événements pour les jeunes et par les jeunes. Donc nous, notre objectif au niveau départemental, c'est de faire se rencontrer tous ces jeunes des différents syndicats, car on pense que, ce que je viens de dire, l'émancipation des travailleuses et des travailleuses passera par la formation de nos jeunes militants et militantes. Et donc, notre principale mission, voilà, c'est de se faire rencontrer les jeunes, de proposer aussi un cadre, d'accompagner les dynamiques qui se créent, parce que les collectifs jeunes des syndicats, la journée d'aujourd'hui le montre, font déjà plein de choses. Donc l'idée, c'est de venir, voilà, quand ils ont des tracts jeunes, on les relaie à l'ensemble des collectifs jeunes du département. Quand ils font des actions qui sont ouvertes, on invite d'autres jeunes à venir. Et l'objectif, c'est de former la future génération de cadres aussi de la CGT pour que on puisse, voilà, rester à l'offensive, pas toujours être sur la défensive, même si c'est pas facile parce qu'on est très attaqué ces dernières années, ça a été dit tout à l'heure. Donc rester à l'offensive, parler de nos idées, parler de notre projet pour les travailleuses et les travailleurs. Et ça passera forcément par les jeunes qui ont plein d'énergie et plein d'envie.
Très bien, merci. Peut-être Guillaume, un petit mot plus général sur l'intérêt de cette journée. C'est vrai qu'elle tombe dans un moment politique vraiment particulier. J'imagine que ça prend tout son sens aussi, ce type d'action de formation syndicale.
Ah oui, complètement. C'est le hasard du calendrier. Hein. La journée a été prévue depuis un certain nombre de temps. Les élections européennes, voilà, ont donné le ton. Donc là, ça tombait vraiment bien cette journée, justement, pour réaborder sereinement cette question de lutte contre l'extrême droite. Et ça a permis aussi de mettre en avant les difficultés qu'on a dans les syndicats pour aborder ces sujets politiques qui traversent notre pays. C'est par le biais de la jeunesse qui, j'espère, en tout cas, vu tout ce qui a été dit, voilà, ils sont à la hauteur, il faut leur faire confiance. Et la journée d'aujourd'hui, elle est hyper positive là-dessus. Ils ont envie, on a envie. Et donc, à partir de là, il y a le tract que tu as mentionné qui a été proposé. Il va être juste où on va rajouter des dates importantes qui commencent samedi 15, là, avec la mobilisation à Bordeaux. Mais aussi rappeler à tout le monde du travail les législatives avec les dates qu'il faudra pas manquer. Et comme l'a dit Nathan, il faut réaborder ces sujets tranquillement dans les boîtes, et ça devrait avancer sur cette question-là, que la politique elle doit aussi rentrer dans les entreprises. On a eu tendance à la laisser à sa porte. Ben maintenant, voilà, on se retrouve face au mur. Donc comment on fait? Donc on se retrousse les manches et c'est parti. Hein.
Et ça va consister en quoi, se retrousser les manches là dans les 2-3 semaines à venir pour, en tout cas, qu'est-ce que du côté de la CGT des Métallos, vous vous êtes donné comme ligne un peu à suivre dans ces jours à venir?
Alors nous, à la métallurgie, déjà dans un premier temps, c'est de montrer l'imposture sociale, que soi-disant l'extrême droite est proche des ouvriers, proche de... du monde du travail, nous c'est de rappeler que toutes les lois qu'ils ont été contre, ils sont pas proches de nous, ils sont proches du capital, et ça c'est aussi de notre devoir de leur rappeler que le monde du travail ira encore plus mal qu'il l'est actuellement si l'extrême droite est au pouvoir. Donc là, il reste 3 semaines. Il y a le support, le tract qui sera à disposition. La fédération devrait sortir une déclaration aujourd'hui ou demain. Je sais que la confédération, ils se sont déjà positionnés. Là maintenant, ce sont les syndicats à s'emparer de tous les supports qui vont être mis à disposition. Pour éviter que l'extrême droite aille au pouvoir dans les 3 semaines.
Oui. Mélissa ?
Parce que le RN a poussé, et pousse pour une loi transphobe, entre autres pour interdire les transitions de genre chez les enfants. C'est ne pas comprendre ce que c'est que la transidentité, c'est n'avoir jamais parlé à une personne trans de sa vie que de vouloir promouvoir telle chose. Nous, à SAFT, on a pour la première fois une personne qui souhaite effectuer sa transition c'est hyper, hyper, hyper compliqué parce que ne serait-ce que d'aller se changer dans les vestiaires où la personne se prend de la transphobie dans tous les sens. Et si le RN est au pouvoir, c'est fini pour cette personne. Elle ne pourra jamais être qui elle est vraiment, elle ne pourra jamais, jamais, jamais. Et alors, la discrimination, à mon avis, le salaire, c'est fini.
Donc c'est à la fois les employeurs, mais aussi parfois chez les collègues que ça pose problème, c'est ça ?
Ouais, beaucoup de difficultés pour simplement aller changer dans les vestiaires et tout. Et ça, mais il faut échanger en fait avec les gens pour comprendre en fait ce qui se passe dans la tête et que faut pas en avoir peur en fait des personnes trans. C'est leur identité et elles veulent le revendiquer. Il faut leur laisser pouvoir le revendiquer. C'est pas une attaque à tous les autres parce que le RN à chaque fois on a l'impression que c'est à eux qu'on va demander de transitionner et tout, mais c'est qu'ils n'ont jamais parlé avec eux, quoi. Sinon, c'est horrible quand on voit le taux de suicide de ces personnes-là, mais c'est inadmissible. La violence qu'ils se prennent au quotidien. Ça sera 1000 fois pire avec le RN. Mmh.
Tu parles de cette difficulté aussi avec les collègues. On peut, si on regarde dans le passé, il y a eu des époques plus fastes pour le syndicalisme, avec des équipes très syndiquées, etc. Comment aujourd'hui vous voyez ça, ce truc de, alors je ne sais pas comment c'est dans vos boîtes, mais il y a moins de syndiqués qu'avant. Peut-être c'est compliqué d'aller chercher des nouvelles personnes, en tout cas de faire exister le collectif et cette solidarité. Enfin, comment vous le voyez aujourd'hui autour de vous, en tant que jeune aussi, avec vos jeunes collègues ? Guillaume ?
Là, dans la période, tous les syndicats se renforcent en grande majorité sur le département. On voit que les politiques successives, on voit dans les entreprises où sans cesse on est attaqué à la fois sur les conditions de travail, sur les salaires, on voit que beaucoup de jeunes, de femmes nous rejoignent. Et ça, c'est très positif, surtout quand on voit la teneur des débats qu'on vient d'écouter. Les jeunes, ils ont envie de prendre leur avenir entre les mains. Et ça, c'est bien dans la période. Maintenant, c'est comment nous, plus anciens, entre guillemets, on arrive aussi à les amener à prendre leur destin en main. Mais la période, en tout cas, ça bouge et ça brasse du monde.
Merci beaucoup à Mélissa, Justine, Nathan, Jonathan, Guillaume et Tanguy qui étaient présents dans notre studio donc le 13 juin dernier dans le cadre d'une journée de formation de la CGT et on a profité pour parler avec eux de la situation générale. On vous rappelle l'événement de ce week-end, la mobilisation contre l'extrême droite qui aura lieu dimanche à partir de 14h. Rendez-vous place de la Victoire pour une manifestation donc qui s'élancera en direction de la place Stalingrad. Et de notre côté, on se retrouve lundi pour le plat de résistance des vieux fourneaux. Voilà, bonne journée, bonne écoute de la Clé des Ondes. Dans quelques instants, à 13h, ce sera la rediffusion de l'émission Climat de lutte. Bonne journée.
ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. La clé des ondes 90.10. La clé des ondes.fr.
Vous écoutez La clé des ondes sur le